C'est la classique du lundi dans les prochaines secondes. Marc Bellemare avec Yann Marceau. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. Demain matin, 7:55 dans le Pit Stop et à 14h avec les demoiselles.
Salut!
Bye. Salut! Sauvons les arbres.
Boulevard.
Boulevard.
Te tiens informé.
102.1.
Toute la semaine. Partout. La Beauce. Portneuf. Bellechasse. Saint-Og. La Côte-de-Beaupré. Québec.
Et je salue les gens de Lévis. Je n'ai jamais oublié les gens de Lévis.
Ouais. Effectivement. Boulevard 102.1. Maintenant, 100% talk.
Une propriété. Leclerc Communication. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. Maître Bellemare, bonjour, comment ça va? Est-ce que vous avez passé un super beau week-end?
Ouais, surtout hier soir quand j'ai vu l'heure du match, c'était parfait, hein? 5h45, ça. C'est bon pour les vieux comme moi, là. On peut se couper plus tôt.
Ouais, ben le Canadien qui a quand même sorti très fort, des grosses mises en échec. Par contre, au niveau du temps de possession en première période, c'est plus le Lightning de Tampa Bay qui a été l'agresseur. Mais au niveau physique, le Canadien est sorti très fort, alors que je m'attendais au contraire. Quel joueur, Juraj Slavkovski, c'est tout un choix de première ronde qui est en train de déblouir, je pense, la planète hockey avec ses 3 buts hier.
22 ans. Ça nous donne un petit kick.
Oui, pas pire.
Ça nous donne un petit kick, mais 22 ans, c'est quand même prometteur. Puis oui, il y a eu un gros match. Il va falloir continuer de faire la même chose. Moi, j'ai été... Anderson a très bien fait. Slavkovski aussi, avec des mises en échec quand même. Il n'a pas juste compté des buts. Il y a eu aussi des mises en échec. Il s'est très bien débrouillé physiquement. Donc, on avait des épaules hier. Et c'était M. X aussi qui a pas manqué sa shot. Qui n'a pas manqué l'occasion de montrer des muscles. Et je pense que, honnêtement, je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est la présence physique sur la glace. Ils ont donné des mises en échec solides. Ils ne se sont pas laissés intimider. Il y a eu quelques punitions douteuses, mais quelque part. Puis il y a eu un but qui a été refusé aussi. Il ne faut pas oublier ça. En réalité, ils ont compté 5 buts. Les arbitres ont dit que le but était bon, mais à Toronto, ils ont dit qu'il n'était pas bon. Mais il reste que, il y a quand même eu... À mon avis, là, ça a été un bon match. S'ils continuent de jouer comme ça, ils peuvent ramasser le prochain match à Tampa Bay puis s'en sortir avec un gain. Parce que je pense que Tampa Bay a donné son maximum hier. Là.
Oh! Attendez un petit peu. Là. Ils ont pogné plusieurs pénalités en zone offensive. D'ailleurs, c'est John Cooper qui était insatisfait de son équipe au niveau des punitions parce que c'était 4 ou 5 pénalités en zone offensive puis il n'a pas du tout apprécié. Mais bref, une belle victoire de 4-3 du Canadien contre le Lightning de Tampa Bay. Prochain match, c'est demain à 19h, donc c'est à ne pas manquer. Puis on a du gros hockey. C'est le fun de ne pas être en vacances au niveau des séries. On a tout un club à Montréal, puis on aspire peut-être, qui sait, à la finale de la Coupe Stanley. C'est possible. Est-ce que je rêve quand je vous dis ça?
Bien, Tampa Bay, c'est un gros morceau à sortir. C'est sûr que, oui, ils ont pogné des mauvaises punitions, tu as raison, mais c'est parce que les arbitres ont sorti le sifflet, là. Parce qu'on a vu des séries, des fois, au cours des dernières années, là, c'est encore jeune pour commenter la série 2026, mais on a eu des séries déjà où les arbitres avaient serré le sifflet dans le troisième tiroir, puis ils sifflaient jamais. Hier, ils ont sifflé. Alors, s'ils continuent de siffler puis de commander des punitions au bon moment, ça pourrait avoir un impact déterminant sur la fin. Mais effectivement, on va regarder ça demain, mais là, le Québec est en liesse. Tout le monde est excité, tout le monde est content.
Ouais.
Je pense que Mme Fréchette... Notre nouvelle première ministre doit être contente aussi, parce que quand l'humeur est favorable, ben ça peut. Tu sais, les gens sont moins critiqueux, puis ils ont moins le focus sur le Parlement, puis ça a tendance à avantager le gouvernement en place. Ça, je peux te le dire, les printemps, quand le Canadien va bien, tout va bien, les gens sont de bonne humeur, puis ils sont moins critiques par rapport au gouvernement. Fait que dans le Parlement, ils sont contents aussi.
Parlant de Christine Fréchette, hier, elle était de passage à Tout le monde en parle. Je pense qu'un bon 20 minutes, là, une bonne entrevue de 20 minutes. Par contre, au niveau des réponses, j'ai trouvé ça très faible, entre autres au niveau de l'économie. Qu'est-ce qu'elle va faire pour aider les gens actuellement? Il y a des gens qui nous écoutent présentement, Maître Bellemare, puis qui se disent « Comment je vais faire pour mettre de l'essence cette semaine avec l'augmentation du prix de l'essence? Je ne serais même pas capable de me rendre à la job. Il va falloir que je trouve une solution alternative. » Il y a des gens qui se posent des questions. « Comment je vais faire pour faire mon épicerie, nourrir mes enfants? » Et elle ne semblait pas avoir de réponse hier à Tout le monde en parle. C'était « On reste en surface, on va aider les jeunes à l'achat d'une première maison. Pour ce qui est de l'itinérance, on va se pencher là-dessus, mais on ne sait pas encore de quelle façon. » Moi, je vous colle la shot d'avance, c'est qu'on va rajouter de l'argent, on va créer d'autres organismes et peut-être d'autres postes de fonctionnaires pour essayer de régler le problème de l'itinérance. Mais c'était vide un peu, ces réponses. Je me serais attendu à quelque chose... C'est une technocrate, là. Je me serais attendu à quelqu'un de préparé qui est là pour rassurer son peuple. Malheureusement, le charisme d'une palourde, ce qui fait en sorte que ça a été... C'est sorti sec. Elle n'a pas grand plan, si ce n'est que de grandes idées, peut-être, qui sait.
Oui, puis tout ce qui touche les droits de mutation, puis l'accès à la propriété pour les jeunes sont dans la catégorie de ceux qui votent le moins. Les sondages nous montrent, surtout dans la région de Québec, que c'est le Parti conservateur qui a la pôle principale.
Ouais. Montréal, c'est le Parti libéral. Québec, c'est le Parti conservateur, Parti québécois. Puis à la grandeur du Québec, je vous dirais que c'est beaucoup le Parti québécois qui domine et un peu le Parti conservateur. Mais s'il y avait des élections demain matin, ce serait un gouvernement du Parti québécois. Ce qui restera à déterminer, c'est à savoir si on leur donne un mandat majoritaire ou un mandat minoritaire.
Exactement. Et bon, les jeunes... Je ne pense pas que ce soit une clientèle privilégiée pour la CAQ, les mesures pour les jeunes. C'est sûr que le prix de l'essence, ça peut toucher pas mal plus les générations un petit peu plus vieilles. Les jeunes aussi, bien sûr, mais tu as raison, c'est un élément, elle a peut-être manqué une belle occasion d'arriver avec une mesure populaire qui couvrirait l'ensemble de la population hier dans le cadre de son entrevue, effectivement, mais... On s'attend à ça. Mme Fréchette, c'est issue des chambres de commerce. C'est une femme qui a fait beaucoup de bureaucratie dans sa vie. Et on n'a pas là, cette espèce de petite étincelle dans l'œil là, que d'autres ont. Là. Je trouve que les leaders des autres partis, je pense à M. Duhaime, je pense à M. Milliard, eux autres, qui ont l'étincelle dans l'œil. Là. Ils voient que les sondages sont bons, dépendant des régions, dépendant des clientèles, bien sûr, mais Mme Fréchette se retrouve avec un parti qui est vraiment très, très bas dans les sondages. Partout au Québec. Et effectivement, je ne pense pas hier qu'elle a fait quelques gains que ce soit. Il faudrait qu'elle arrive avec des choses solides. Conseil des ministres, on nous annonce ça pour demain. Là. C'est ce que le Journal de Québec et le Journal de Montréal nous disent aujourd'hui. Ils nous annoncent ça pour demain, mardi, avec essentiellement pas beaucoup de surprises. On n'aura pas beaucoup de nouveaux arrivants. Jolin Barrette devrait rester en justice. M. Drainville va avoir des ministères importants au plan économique. J'ai l'impression que ça ne bougera pas bien, bien. Moi, il n'y en aura pas de gros noms. Puis, des gros noms connus, il n'y en a pas. Il y a des nouveaux arrivants connus, il n'y en a pas. Des nouveaux arrivants qui ne sont pas connus puis qui seraient obligés de se faire connaître de la population dans les quelques mois qui nous restent avant l'élection. C'est toujours précaire. Fait qu'être un peu poigné pour jouer avec avec son vieux stock, là.
Entièrement d'accord avec vous. Elle va tenter de faire du nœud avec du vieux. Elle va tenter de ne pas décevoir certaines personnes. Puis elle va décevoir d'autres personnes. Je pense à Geneviève Guilbeault, qui était, il y a de ça quelques années, la personne pressentie pour remplacer François Legault. Elle était vice-première ministre du Québec. Demain, d'après moi, Maître Bellemare, ça devrait être une grosse déception dans sa vie. Là. Elle va terminer sa carrière en tant que simple député. C'est l'impression que j'ai. Je ne suis pas sûr qu'on lui donne un poste de ministre là, si on veut plaire à des gens qu'on pense être avec nous aux prochaines élections.
Oui, mais je pense que Mme Lebel va rester au Conseil des ministres, d'après ce qu'on entend. C'est une valeur sûre, même si elle a dit qu'elle ne se présentait pas. Mais là, il paraît qu'il y en a qui remettent en question leur décision de ne pas se présenter. Là. Il y en a qui commencent à trouver, qui avaient annoncé leur décision de ne pas se présenter dans la CAQ à la prochaine élection. Mais là, ça a l'air qu'il y en a qui commenceraient à douter de ça puis à peut-être revenir sur leur décision. On verra bien. Mais pour être nommé au Conseil des ministres, tu n'es pas obligé d'être élu. Il peut y avoir des nouveaux arrivants économiques. On parle de M. Cormier, là, du côté de, Desjardins.
M. Cormier qui aurait refusé, là?
Bon, peut-être, mais on ne sait pas. Il y a peut-être... on se souvient que François Legault a accédé au Conseil des ministres sans élection. Hein. Il avait été nommé là par Lucien Bouchard. C'est un nouvel arrivant, c'est un prometteur, c'est un gars d'affaires. Donc, il a commencé sa carrière politique sans être élu. Richard Legendre, c'est la même chose, qui arrivait du monde du sport, puis qui était très respecté. Puis on l'a nommé au Conseil des ministres. Je ne sais pas si René Lévesque n'avait pas aussi, en 84-85, amené Michel Lalonde, je ne sais pas si c'est Michel son prénom, Madame Lalonde, qui avait été nommée au Conseil des ministres. Même le PQ l'avait fait déjà avec René Lévesque, alors dans le deuxième mandat. Alors peut-être qu'il y aura des nouveaux noms, mais ça prend du nouveau chez Mme Fréchette. C'est sûr que ça prend du nouveau dans les noms, dans les idées, puis... Là, il y a eu un petit boom sympathique là, la semaine passée, parce que là, bon, après l'élection, elle arrive, la sermentation, tout le monde est content, elle a beaucoup, beaucoup de visibilité, mais la visibilité sans contenu, là, c'est pas ça qui rapporte beaucoup au plan politique. Les gens ont faim de changement, là. Ils ont faim de changement.
Exact. Maître Bellemare, je veux votre avis là-dessus. On avait parlé d'un registre des prédateurs sexuels qui est toujours pas arrivé. On sait que la pornographie juvénile, elle est interdite. C'est interdit d'en consulter, c'est interdit d'en produire, bien entendu. Il y a une enquête de CNN qui a été réalisée il y a de ça quelques semaines. Et c'est en février qu'on a réalisé cette enquête-là. Puis on s'est aperçu, Maître Bellemare, qu'il y avait des sites porno, entre autres le site porno Motherless, qui se décrit comme un hébergeur de fichiers sans censure, où on a obtenu en un mois, donc juste au mois de février, 62 millions de visites, Maître Bellemare. Et qu'est-ce qu'on consulte? C'est des femmes qui sont trop saoules pour savoir qu'est-ce qui se passe, des femmes qui sont endormies, qui sont agressées par des hommes qui, eux, se sont filmés pour ensuite diffuser le résultat de la captation sur les réseaux sociaux, sur ce site-là, entre autres Motherless, et c'est consulté par 66 millions de personnes. Mais c'est donc bien dégueulasse.
Oui, il faudrait interdire ces sites-là. Je ne sais pas. Là.
Ben, interdire les sites porno, je ne suis pas sûr, mais moi, une agression sexuelle, là, rendre ça public comme ça, une agression sexuelle, ça, c'est complètement illégal, mais des gens qui consultent des vidéos d'agression sexuelle, moi, selon moi, ils font partie du problème, ces gens-là, Maître Bellemare.
Oui, oui, tout à fait. Puis pour les jeunes, même, il y a des sites. Julie Méville-Dechaine au fédéral, Mélite, je pense qu'elle a présenté un projet de loi. Je me demande si ce n'est pas le projet de loi 309 ou quelque chose du genre. Mme Méville-Deschênes, qui est une ancienne journaliste très respectée, qui est à Radio-Canada, est maintenant sénatrice et elle a proposé l'année dernière, en 2025, un projet de loi visant à obliger les sites pornographiques, quels qu'ils soient, à demander l'âge d'un jeune et à interdire qu'un mineur puisse y avoir accès. Et parce qu'actuellement, là, on ne se le cachera pas, là, les jeunes de 10-12 ans peuvent avoir accès à du matériel pornographique, ce qui leur donne une image un peu biaisée de l'amour et de la sexualité, parce qu'ils développent des modèles, puis ils prennent pour acquis que les modèles qu'ils voient sur les sites sont les modèles qui sont requis dans la vie quotidienne et dans leur vie amoureuse, dans leur vie sociale. Fait que ça crée tout un pattern de domination puis d'exploitation sexuelle des femmes, particulièrement des femmes, et c'est à ça que Mme Méville-Deschênes veut s'attaquer. Mais d'après ce que j'en sais, elle aurait eu l'appui du Parti conservateur, mais elle n'aurait pas l'appui du Parti libéral. Alors, c'est toujours les mêmes marottes, là. C'est toujours la liberté d'expression, puis la liberté de ci, de ça. On ne peut pas interdire, on ne peut pas si, mais tu as raison, quand c'est des agressions sexuelles, carrément, vues par des millions de personnes, les gens vont voir ça, puis il y en a pour qui c'est une simple distraction. Il y en a pour qui c'est c'est pas nécessairement un modèle. Il y en a pour qui ça devient un modèle. Ils commencent à prendre goût à ça, puis ils commencent à s'y intéresser, puis éventuellement peut-être à passer à l'acte. Tu sais.
Maître Bellemare, c'est 20 000 vidéos qui sont publiées dans les catégories, là, dans des catégories « pass it out », donc « pass it out », c'est « inconsciente ». Ensuite, « eye check », donc « vérification des yeux », parce qu'on voit clairement les agresseurs sexuels dans les vidéos vérifier si leur victime est bel et bien endormie. Il y a une communauté, de ce qu'on comprend, là, de ce type d'agression sexuelle-là, puis ils se donnent des trucs entre eux. Ça prend combien de verres d'alcool, combien on doit mettre de calmants ou autres produits, exemple.
Oui, il y a des recettes.
Il y a des recettes, Maître Bellemare. Tu sais, je veux dire, j'en reviens pas, moi, que ça soit accessible à tout le monde, puis qu'il y a des gars, ben, je dirais pas comme vous et moi, là, mais il y a des hommes qui les excite de voir des vidéos d'agression sexuelle. Les gars, allez chez un sexologue, allez chez un psychologue, allez chez un psychiatre. Si vous êtes excité par ce genre de vidéos-là, ça va pas, là, et vous faites partie du problème.
Oui, c'est ça, effectivement. Puis je pense que nos gouvernements devraient s'intéresser à l'interdiction formelle de certains sites ou la non-accessibilité quand ce sont des sites qui incitent à la criminalité, surtout en matière sexuelle. On sait que c'est une problématique réelle. Il y a beaucoup de crimes qui sont de nature sexuelle au Canada actuellement. Notre code criminel est plus ou moins sévère par rapport à ça. On l'a déjà dit. Il y a même des peines dans la communauté qui sont accordées pour les agressions sexuelles au Québec et au Canada. Les juges peuvent le faire depuis le projet de loi C-5 là, qui est en vigueur depuis 2022. Donc, il y a plein d'échappatoires. Et il y a une banalisation très importante de la criminalité sexuelle. Et même, il y a des procureurs de la Couronne qui l'ont déjà dénoncé publiquement. Le ministre Jolin Barrette a dénoncé ça publiquement. Mais ça demeure au stade des dénonciations puis de la désapprobation publique. C'est facile pour un ministre de dire « je suis pas d'accord » puis « je vais parler à qui de droit ». Mais c'est pas ça que ça prend. Ça prend des interdictions formelles. Des sites où on donne des recettes pour agresser sexuellement des femmes, donc obtenir des faveurs sexuelles sans leur consentement, alors qu'ils sont complètement drogués, saouls ou sous l'effet de sédatifs, c'est inacceptable. Et ça ne prend pas grand-chose pour interdire ça. Il suffit d'interdire dans le code criminel et peut-être d'avoir recours à la clause dérogatoire, ce que le fédéral n'a jamais fait, pour s'assurer que la liberté, que l'interdiction l'emportera sur la liberté d'expression. Parce que moi, dans une société libre et démocratique, là, la liberté d'expression avec des films d'agression sexuelle clairs et explicites, avec des recettes, je vois pas qu'est-ce que ça peut faire dans notre société, là.
Entièrement d'accord avec vous, Maître Bellemare. Autre dossier que j'ai lu ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, ça se passe en Montérégie. Il y a des acheteurs d'une luxueuse résidence de la Montérégie qui réclament 475 000 $ aux anciens occupants parce qu'il n'aurait pas dit toute la vérité sur ce qui se serait passé à l'intérieur de cette dite maison-là. On nous dit que dans cette maison-là, il y a un intrus qui serait mort suite à une introduction par effraction qui a mal tourné. Les gens ont acheté cette maison-là 1 580 000 $ et dans aucun cas, quand on regardait l'acte de vente, là, il y avait quelque chose qui indiquait la mort de quelqu'un, que ce soit par suicide ou encore pour mort violente. Donc, ce n'était pas coché dans la déclaration du vendeur, alors que c'est une obligation au Québec de cocher cette case-là. Y a-t-il eu des morts violentes ou encore un suicide? C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de demi-mesure. Et à la toute fin du document, Maître Bellemare, les vendeurs faisaient état d'une intrusion altercation à domicile en 2020, mais sans plus de détails. On nous dit qu'un individu qui était atteint de schizophrénie était, de fait, entré par effraction dans la maison le 3 avril 2020, aux petites heures du matin. L'individu s'en est pris physiquement à la mère de famille, puis à sa fille aînée, qui a bien cru qu'elle allait y rester. Par légitime défense, bien, le propriétaire a poignardé l'agresseur avec un couteau, et l'homme de 52 ans a succombé à ses blessures, et la dame et l'individu n'a jamais été accusé du crime, bien entendu. Mais dans le rapport de vente, on ne parlait pas qu'il y avait eu ce type de mort-là. Et ce qu'on dit du côté des vendeurs, c'est que comme l'individu a été poignardé à l'intérieur de la maison, c'est important de dire qu'il y avait eu une altercation. une invasion de domicile, mais l'individu serait mort. On aurait fait le constat de la mort de l'individu à l'hôpital, donc pas besoin de déclarer qu'il y avait quelqu'un qui était mort à l'intérieur de la maison.
Ouais, ben c'est délicat comme question. Je te dirais que c'est dans le vaste concept des vices cachés en réalité. Les vices cachés, c'est pas juste des souris puis des fourmis puis des dégâts d'eau, c'est aussi l'histoire de la maison. Et je comprends pas pourquoi dans ce cas-ci les acheteurs demandent pas purement simplement l'annulation de la transaction. Parce que s'ils peuvent démontrer que n'eût été que s'ils avaient connu cet état de fait-là, ils n'auraient pas acheté, bien, ils peuvent demander l'annulation de la maison. Tout est une question de contexte, tout est une question de crédibilité, tout est une question de preuve. Mais je ne sais pas. Moi, si ça me dérangerait de savoir que quelqu'un est décédé, bien, j'ai déjà acheté une maison où la personne était décédée dans la maison, mais d'une mort naturelle, là. Et ce qui n'est pas exceptionnel au Québec, mais une mort violente, une mort de nature criminelle, un assassinat quelque part, ben, quoi que ça peut avoir été fait en légitime défense dans ce cas-ci, mais il reste que ça peut constituer un vice là, qui peut mener à la réduction du prix de vente ou à l'annulation de la vente, effectivement, mais ça dépend de la personne. Il y a des gens qui vont rire de ça puis qui vont dire « Mais c'est quoi cette affaire-là? Il y a eu un mort, puis c'est fini, puis c'est réglé, puis Ils ont nettoyé la place, puis la maison a été vendue, non pas parce qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu un mort dans la maison, mais elle a été vendue parce qu'il y a des pièces bien éclairées, une bonne fenestration, une bonne dimension, une bonne qualité de construction. Alors, l'acheteur a quand même le fardeau de démontrer que c'est un élément central de sa transaction et qu'il a droit à une réduction de 500 000 $ sur le prix de vente, là. Alors, c'est une question d'appréciation aussi. Là, c'est pas gagné. On verra bien ce que le juge décidera, mais probablement que ça va se régler hors cours pour une somme beaucoup, beaucoup moins importante que ça.
Oui, bien, ce qu'on nous mentionne,
c'est 500 000 $, c'est beaucoup d'argent.
Oui, c'est 475 000 $.
Mais pourquoi ils ne demandent pas l'annulation de la vente si c'est si grave que ça?
Ah, j'imagine que la maison leur plaît, bien entendu, mais la maison perd de la valeur. Là. Faisant un peu d'immobilier, Maître Bellemare, je vous le confirme, là, des maisons dans lesquelles il y a eu un suicide, des fois c'est 25, 30, des fois 50 % de la valeur de la maison qui baisse.
Oui.
Parce que c'est pas tout le monde qui veut avoir ces maisons-là. Je vous dirais qu'à certains endroits à Montréal, à certains endroits à Québec ou d'autres endroits où il manque de résidence, des fois, les propriétaires sont prêts à acheter la maison même s'il y a eu une mort violente. Mais en situation normale, Maître Bellemare, votre maison perd nécessairement de la valeur, surtout s'il y a des gestes ignobles qui ont été commis à l'intérieur de cette maison-là.
Oui, peut-être. Alors, mais là, c'est ça. Alors, il demande 475 000, mais c'est basé sur quoi? C'est quoi les arguments? C'est simplement qu'il y a déjà eu une personne qui a été poignardée et tuée dans cette... attaquée dans cette maison-là? Ou c'est parce qu'il faut que tu sois capable de justifier le dommage, là. Ça vaut-tu 25 000 ou si ça vaut 475 000?
Je reviens à ce que je vous disais. Entre 25 et 50 % tout dépendant où est-ce que vous êtes au Québec de la perte de valeur de maison. Leur maison qui vaut quand même au-dessus d'un million de dollars, là, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Autre dossier, c'est un dossier qu'on a pu lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Un homme qui aurait profité du fait que son père ne semblait pas tout à lui pour lui dérober une bonne somme d'argent. Dans ce cas-ci, on parle de 90 000 $.
Oui, il y en a qui disent 100 000, puis il y en a qui disent 90 000, on ne sait plus trop, là. Mais le gars ne s'est même pas présenté au procès, là. D'après ce que j'ai compris, je ne sais pas s'il y a deux histoires comme ça. Moi, j'ai compris qu'il y avait eu un jugement de la commission du tribunal des droits de la personne. Ouais.
Il a été acquitté au criminel.
Oui, c'est ça.
Et par la suite, on est allé le chercher. Ouais, et par la suite, on est allé le chercher avec le tribunal des droits de la personne qui qualifie les gestes du fils d'extorsion et de vol.
Oui, acquitté au criminel, un homme de Lévis condamné à un peu plus de 100 000 $. Son père âgé vulnérable. Ouais, c'est ça. Le père avait donné accès à ses cartes, compte tenu qu'il était malade, à son fils pour certains achats. Puis le fils a profité des numéros, des codes pour être capable d'aller chercher des sommes plus importantes. On parle de 90 000 $ 17 000 provenant de 41 chèques faits à son endroit. Il s'est payé à traite, pas à peu près. Là. 45 000 de retrait effectué avec la carte de guichet, c'est ce que je te disais tantôt. Puis 22 000 qui auraient été portés au crédit de l'année. Alors, le monsieur a des épargnes au départ, puis à la fin, il y a des dettes. Mais moi, je vais te dire, là, j'ai l'impression que ça se passe pas mal souvent. Là, il s'est fait pincer, là. Mais je ne comprends pas pourquoi il a été acquitté au criminel aussi. Là. Ça, c'est une autre histoire, mais la dépêche ne nous donne pas les détails de ça. Mais moi, j'ai l'impression que ça peut arriver souvent. Des enfants qui vont, je ne sais pas, tu sais, je m'occupe de mon père, je suis allé, j'ai perdu du temps. Puis, se faire une espèce de justice, sachant que le père est complètement incapable de gérer ça. Puis si c'est un enfant unique ou si c'est une famille qui ne se parle pas, c'est plus facile d'exploiter. Si tu as quatre enfants qui se parlent, bien là, il y a une communication, puis on sait qu'est-ce qui se passe au niveau des finances. En tout cas, il y a moins, c'est moins facile d'exploiter puis de voler de l'argent à une personne âgée quand il y a de la famille autour, des gens qui se parlent. Mais si la personne est seule, puis que c'est une petite famille ou c'est une famille qui ne se parle pas, bien là, évidemment, il peut y avoir une possibilité pour l'enfant là, d'exploiter à outrance le pauvre monsieur. Puis c'est tellement triste parce qu'en quelque part, là, à partir de ce jugement-là, peut-être, non, il n'y aura pas d'accusation.
Mais comment il a pu être acquitté au criminel puis déclaré coupable devant le tribunal administratif de la personne?
J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il a été accusé et acquitté. Peut-être qu'il y a eu des accusations qui ont été retirées par le DPCP aussi, je ne sais pas.
Le juge avait un doute sur la culpabilité de l'individu. Donc, ils ont dit je suis plus favorable à l'individu, donc je n'ai pas le choix de l'acquitter, mais il a peut-être crossé son
peut-être
père.
Peut-être que la couronne aussi, parce que c'est des preuves assez complexes, hein. Ça prend des jurys comptables pour vérifier l'ensemble des dépenses. Qu'est-ce qui a été acheté, à quel prix, à quelle date, etc. Faire la recherche et tout ça. Peut-être que le DPCP trouvait que c'était un petit peu trop difficile puis qu'il y avait des doutes. J'ai aidé mon père, ses dépenses. Je ne sais pas ce qu'il y a eu comme information. Je ne sais pas si c'est un jugement d'acquittement qui a été prononcé, mais ce serait intéressant d'aller voir un petit peu le détail de tout ça pour voir comment ça se fait effectivement qu'il a été acquitté. Mais selon le Journal de Québec, le Journal de Montréal que tu disais tantôt, dont tu parlais tantôt, il semble qu'il y aurait eu un acquittement qui aurait été, on dit acquitté au criminel, un homme de Lévis a été condamné à payer. On sait qu'au civil, pour les réclamations que le tribunal des droits de la personne a eu à examiner, ben c'est une preuve de probabilité, 50 % plus 1. Alors qu'au criminel, ça prend une preuve hors de tout doute raisonnable, c'est quasiment 95-99%. Donc, peut-être que c'est le niveau de preuve qui n'était pas suffisamment élevé pour obtenir une condamnation criminelle, mais qui permettait quand même d'obtenir une condamnation civile. Alors, ce monsieur-là qui ne s'est pas présenté devant la juge Magali Lewis du Tribunal des droits de la personne, bien, il est condamné à payer, je pense, c'est 108 000 $. C'est une affaire qui a fait grand bruit. Et c'est une bonne chose que ça a fait grand bruit, qu'on en parle actuellement, Yannick, parce que ça permet à des gens plus âgés qui nous écoutent en ce moment d'être un peu plus vigilants. Surveillez vos affaires, puis demandez des comptes, puis gênez-vous pas à le demander à vos enfants. Puis si vous pensez qu'il y a un problème, bien, parlez-en avec des collègues, parlez-en avec des voisins, parlez-en avec des gens de confiance. Rares sont les gens qui parlent à personne, non? Parlez-en avec votre gérant, parlez-en à un avocat, prenez le téléphone, consultez un avocat, ça va vous coûter une couple de 100 piastres, puis vous allez avoir des informations pour pouvoir vous défendre par rapport à ça.
Pour les jeunes, de la DPJ, exemple, la DPJ est là pour surveiller. Bon, y a-tu de la violence psychologique? Y a-tu de la violence physique? Est-ce que ces jeunes-là, ces enfants-là, ont tout. Est-ce que les parents répondent à leurs besoins, la nourriture, le confort, la sécurité, la chaleur, patati et patata? Pour les aînés, il ne semble pas y avoir un système. Comme la DPJ. La DPJ, moi, c'est un filet, là, tu sais, elle existe parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté. Ça devrait être la même chose pour nos aînés. Pour avoir travaillé dans des foyers de personnes âgées, je sais que parfois, il y a des flags de l'administration qui sont envoyés aux autres membres de la famille. C'est-à-dire, bon, votre père, il est en sortie présentement. Est-ce que vous approuvez la sortie avec son fils? Peut-être. Des fois, quand il y a des doutes, mais il ne semble pas y avoir d'organisme gouvernemental qui veille aux besoins des personnes aînées et à risque, là,
vulnérables. C'est exact. Il y a la FADOC, qui est la fédération qui s'occupe des personnes âgées, à qui tu peux t'adresser, qui est un organisme crédible. Il y a aussi la police, évidemment. La police, à moins que tu aies, tu sais, le grand-papa qui téléphone à la police pour dire « j'ai des doutes », il va se faire répondre, ben appelez-nous quand vous aurez des certitudes. Mais je pense qu'ils peuvent consulter des avocats ou des notaires, des gens qui sont ferrés en droit pour obtenir de l'information. Mais tu as raison, spontanément, on n'a pas là une organisation ou une structure qui va pouvoir les aider publiquement. Je sais qu'il y a de la pub qui a été faite là, dans les télévisions généralistes là, au cours des derniers mois, où on voit une personne qui doute de son fils, puis tout ça, qui « mon fils est gentil avec moi, il vient me voir, il me demande mes cartes, puis j'ai des doutes, puis tout ça. » Mais ça, une publicité, c'est pas ça qui va donner nécessairement accès à un service de qualité. Mais écoutez, il y a 30 000 avocats au Québec, là. Il y a des notaires, il y a plein de monde qui pourrait les renseigner. Puis pour quelques centaines de dollars, je pense que ça vaut la peine d'avoir de l'information. Les avocats, les notaires savent à qui s'adresser, eux, s'ils pensent qu'il y a des abus ou qu'il y a des... une exploitation d'une personne aînée.
Mais c'est stressant vieillir, parce qu'on ne sait pas si on va avoir toute notre tête. Puis, tu sais, la dernière des choses qu'on pense, c'est que nos enfants puissent ne pas vouloir notre bien. Là, dans le cas de son père, il avait quand même quelques sous mis de côté, il n'y avait aucune dette. Et là, finalement, il se rend compte que son fils lui a complètement vidé les poches et en plus lui a ajouté une dette. C'est cruel parfois. Je suis persuadé qu'il existait ce genre d'organisme-là qui protégeait nos aînés. Vous l'avez dit, si on a un doute, on appelle la police. La police va vous dire, ben, êtes-vous sûr et certain qu'il vous a volé, monsieur, madame? C'est pas toujours évident là, d'amorcer une enquête. Là.
Exactement. Puis il peut se tromper aussi, grand-papa. Là. Il peut penser que son fils l'exploite alors que son fils fait le maximum. Puis si tu commences à mettre la police là-dedans, ça peut des fois briser la famille. Puis ça peut aussi briser l'élan de générosité d'un enfant qui pourrait être de bonne foi. Puis aujourd'hui, les dépenses sont assez élevées. Là. Tu sais, les frais de transport, les frais d'épicerie, les traitements médicaux, si tu vas dans une clinique privée, ça coûte un bras, ça coûte cher. Et il peut y avoir des fois des gens âgés qui pensent que les sommes qui leur sont réclamées sont excessives alors qu'elles sont parfaitement justifiées. Fait que ça commence par une bonne discussion avec l'enfant en question. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Pourquoi ça a coûté ça? Commencer par régler nos comptes, gérer notre budget et par la suite, là, si on voit qu'il y a vraiment un abus, parce que si tu allumes la mèche puis tu commences à faire des plaintes à la police contre un de tes enfants qui te vient en aide puis qui fait ça, il fait tout de bonne foi, il risque de lâcher le morceau puis d'arrêter de t'aider. Fait que c'est des situations extrêmement délicates.
On revient un peu avec une histoire qu'on a jasée, vous et moi, quand même assez souvent. La Société d'assurance automobile du Québec et les criminels. C'est un système qui fait en sorte que les criminels ne sont pas différents des victimes. Ils vont être indemnisés par la Société d'assurance automobile du Québec. Pourquoi on est encore comme ça en 2026? Y a-t-il moyen de faire autrement?
Oui, il y aurait moyen de faire autrement. Ça pourrait être un beau dossier pour Mme Fréchette, parce qu'on a su là, la semaine dernière qu'un individu qui était un camionneur, qui avait joué, je pense, c'est 18 fois sur son téléphone pour jouer des jeux vidéo, alors qu'il conduisait un camion lourd. Et évidemment, on sait ce qui est arrivé. Il y a eu un accident et il y a des gens qui sont décédés dans cet accident-là. Et la famille est complètement outrée parce que cet individu-là, compte tenu qu'il était au volant, serait admissible à des indemnités de la Société de l'assurance automobile pour tous les dommages qu'il aurait subis dans l'accident, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Et moi, je peux te confirmer qu'il y a actuellement dans les prisons et les pénitenciers du Québec des gens qui se disent dépressifs parce qu'ils ont causé la mort de quelqu'un d'autre en automobile. Puis ils sont indemnisés même en prison. Alors, c'est ça la réalité.
La cantine est payée même en prison.
C'est payé même en prison. Ils reçoivent des indemnités en prison parce qu'ils sont dépressifs, parce qu'ils se sentent coupables d'avoir causé la mort de quelqu'un en état d'ébriété ou sous l'influence de drogue. Parce que en vertu de la loi sur l'assurance automobile, et ça, c'est pas nouveau, là, ça, c'est depuis presque 50 ans, depuis mars 1978, est considérée comme une victime toute personne blessée physiquement ou psychologiquement dans un accident. Alors, le criminel, lui, il est tout le temps au volant parce que c'est lui qui a causé la mort avec son véhicule. Mm-hmm. Les parents de la victime ne sont pas toujours présents sur les lieux de l'accident. Or, les gens qui sont des victimes sont des gens qui sont présents au moment de l'accident. Dans l'accident, nous dit la loi. Alors, dans le cas qui nous intéresse ici, le monsieur Singh, là, qui a causé la mort de deux personnes dans le cadre de son accident en camion en jouant avec des jeux vidéo, puis qui a un dossier de conduite long comme le bras, les parents et les proches des deux victimes ne peuvent pas retirer d'indemnité de la SAC parce qu'ils ne sont pas présents dans l'accident. Les gens qui sont présents dans l'accident, c'est le chauffeur du camion. Lui, il a survécu. Il était au volant de son camion. Et les deux personnes qui sont blessées ou décédées dans l'accident, bien, ce sont les victimes. Il y en a trois, en réalité. Alors, toi, si tu es en ce moment, là, on se parle, on est à radio, là, puis au moment où on se parle, tu as un de tes enfants qui se fait frapper par un autobus ou par un gars en état d'ébriété, tu n'es pas présent sur les lieux où l'accident survient, donc tu n'as pas droit à des indemnités. Donc, même si tu vas arrêter de travailler pendant des années parce que tu ne te remettras pas de ça demain matin, tu n'as pas droit à des indemnités de la SAC, alors que le criminel, lui, qui a tué l'enfant, il a droit à des indemnités. Fait que c'est n'importe quoi. Et c'est une loi qui est complètement tout croche. Et pourquoi le gouvernement ou les gouvernements depuis 1978 n'ont pas touché à cette aberration-là? Bien là, je me pince. La question est ouverte. C'est un mystère pour moi parce que ça fait presque 50 ans que je demande que la loi soit changée. Le PQ, c'est une loi péquiste du premier régime péquiste en 1978. C'est Mme Payette, Lise Payette, qui avait introduit cette loi-là. Le no-fault, c'est un régime, c'est une espèce une espèce d'église, de chapelle pour le PQ. Si tu parles de toucher à cette loi-là, c'est comme si tu leur arrachais le cœur. Les libéraux ont déjà promis de la modifier, ils n'ont pas respecté leur engagement. La CAQ n'en a jamais parlé. Parti conservateur, je ne sais pas, mais effectivement, on a une histoire, un dossier ici là, qui est absolument incompréhensible. Et on sait qu'il y a toujours dans le gouvernement, dans nos lois au Québec, des aberrations, des gens qui sont payés, qui ne devraient pas l'être, des gens qui profitent du système. Mais ici, c'est institutionnalisé. Le gouvernement paye des indemnités à des chauffeurs criminels, même en prison, en pleine connaissance de cause. Puis, ça ne se scandalise pas de ça, alors qu'on est à quoi, 13 milliards de déficit, là. Puis que la SAC vient d'enregistrer une dette là, avec sa clique là, de 1,1 milliard. Mais l'argent, on en a. Là. Tu sais, on est riche. On est riche pour payer des bandits, mais on n'est pas riche pour les gens de bonne foi qui attendent des permis de conduire et qui finissent plus de sortie.
Loin de moi l'idée de penser à l'avenir de nos criminels sur la route, là. Mais qu'est-ce qui leur arrive, advenant le cas où la SAC débarque, puis il n'y a pas de remboursement pour les frais de psychologie parce qu'ils ont tué quelqu'un, il n'y a pas de montants qui leur sont octroyés, même qu'ils sont en prison parce qu'ils ont tué quelqu'un ou blessé des gens. Qu'est-ce qui leur arrive à ces gens-là s'ils n'ont pas d'aide de la Société d'assurance automobile du Québec? C'est le chômage, c'est l'aide sociale? C'est l'autre,
filet? Le chômage, effectivement. Mais du chômage, quand tu es en prison, tu n'en as pas parce que tu t'es auto-disqualifié sur le marché du travail. Puis pour avoir du chômage, tu peux avoir du chômage maladie si tu n'es pas incarcéré parce que la loi sur l'assurance chômage a prévu ces modalités-là puis ils ne payent pas n'importe qui. Mais normalement, tu dois être disponible à l'emploi pour bénéficier du chômage si c'est pour une question de perte d'emploi simplement pour quelqu'un qui n'est pas incarcéré. L'aide sociale, tu n'en as pas quand tu es en dedans. Alors, mais ta famille peut en avoir. Alors, il y a les filets de sécurité sociale, c'est le chômage, l'aide sociale, qui serait quand même accessible à ces gens-là. Parce que si tu t'es blessé en commettant un acte criminel au volant puis que tu n'as pas de job, tu peux avoir l'aide sociale. Tu peux aussi avoir les soins de santé publics gratuitement, la carte soleil là, qui te permet d'avoir des soins de santé, mais tu n'aurais pas droit à des indemnités de la SAC là, qui peuvent aller jusqu'à 1200$ par semaine net, là, parce que c'est le maximum actuellement. Là. Ils payent 1200$ par semaine net. Le conducteur de camion, là, M. Singh, je ne sais pas s'il est admissible à la SAC parce que ces gens-là, je ne les défends pas quand ils m'appellent. Quand les gens me disent, moi, j'ai été... J'ai commis un acte criminel, puis je suis blessé, je ne les défends pas. Par principe. je défends les vraies victimes. J'ai le droit de faire ça comme avocat. J'ai le droit de choisir mes cas.
Ben oui.
Mais les gens sont quand même admissibles. Puis c'est sûr que c'est pas public. Hein? Alors, la SAC n'a pas le droit de dire on a versé de l'argent à M. Singh ou à M. Tremblay ou à M. Tartampion qui a commis un criminel. Mais lui, il peut le dire, par exemple. Et à chaque fois que tu vois, dans l'actualité, souvent, là, on voit des photos d'un gars qui a comparu de l'hôpital. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, oui. Là, mais souvent, on voit ça. Là. Ah, madame a comparu de l'hôpital pour des accusations d'alcool au volant causant la mort. Monsieur a comparu de l'hôpital. Mais là, dis-toi une chose, là, c'est qu'il y a un chèque de la SAC qui est rentré à l'hôpital. Là. Parce qu'ils sont, ils sont admissibles parce qu'ils sont blessés, comparaissent de l'hôpital. Ils sont blessés, ils ont comme un acte criminel, mais il n'y a aucun doute sur le fait que c'est l'accident qui a causé les blessures qui font qu'ils sont à l'hôpital. À ce moment-là, ce sont des victimes de la route sur le même niveau et de la même manière que leurs propres victimes. Alors, l'écraseur et l'écrasé sont traités sur le même pied en vertu de cette loi-là.
Maître Bellemare, on va faire une courte pause tout de suite après la pause. Je vais vous parler d'un dossier qui touche la CNESST et c'est un dossier que je trouve quand même hyper intéressant puisque ça touche beaucoup de monde, en particulier les gens qui travaillent, qui doivent travailler toujours debout. Ça occasionne certaines problématiques. Donc, vous nous donnerez un peu plus de détails sur votre expérience avec des gens qui ont des problématiques en ayant travaillé longtemps debout. On va faire une courte pause pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST. C'est bellemareavocat.ca. On revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le segment que personne ne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Une autre toune que je vais vous scraper pour le bien des séries du Canadien Go Habs Go.
Il y a beaucoup d'insultes.
C'est vrai, hein? Hey, quelqu'un a manqué le début de la toune.
Non.
Malheureusement. Dans le point de max à 10h.
Ah, au moins, c'est pas fait par l'intelligence artificielle.
Non, oh, ça, non.
C'est, ça, non.
Ça, aucun.
J'ai plus apprécié mettre 150$ de gaz dans mon char que la toune à max, c'est Jason.
C'est sûr que t'aimes pas gagner en 4 à cette heure.
On est 100% talk en semaine.
Oui.
100% comme 100%.
Ouais.
Jeff, il y a Emmanuel Latraverse qui vient d'appeler finalement à
ça fera pas.
Non.
Fini.
Non, elle a dit qu'elle a écouté ce matin, puis ce sera pas possible de faire.
Elle voulait
la
voir
radio,
quel genre de radio qu'on était, mais elle a dit oh, ouais. M'embarquerai pas là-dedans.
On va rester à Montréal.
Petit top de boulevard 102.1, lundi au jeudi, 7h55.
Pour un temps limité, e-box t'offre une carte prépayée de 50$ quand tu t'abonnes au forfait Internet 500 Mbps. Manque pas ça. Détails au e-box.ca.
Le RAM 1500 Black Express. Le camion qui s'impose sur la route. Par son allure, par ses performances. Et il vient avec la meilleure garantie limitée du groupe motopropulseur au pays pour les camions pleine grandeur. 10 ans ou 160 000 km. Le camion qui se démarque, c'est le RAM 1500 Black Express. Procurez-vous le camion 4x4 pleine grandeur à 4 portes au prix le plus bas au pays. Le RAM 1500 Black Express à cabine quad à partir de seulement 56 995 $. Faites-en l'essai chez votre concessionnaire RAM.
Vous désirez sécuriser votre piscine, embellir votre cour ou moderniser votre intérieur? Clôture Stratégique est la référence au Québec pour les clôtures de piscine, les clôtures haut de gamme et les rampes intérieures en verre. Le printemps s'installe. Planifiez votre projet dès maintenant. Clôture Stratégique avec un K.com.
Si votre maison déborde d'intelligence, avec des télés intelligentes, des téléphones intelligents, des tablettes intelligentes, puis même un lave-vaisselle intelligent, ben je pense que le choix intelligent, c'est de passer au Wi-Fi 7 avec l'Internet Bell Pure Fibre. Connectez tous vos appareils intelligents au Wi-Fi capable d'en prendre. Passez à Fibre 500 pour $75 par mois. C'est intelligent, ça. Bell, tout part d'une connexion.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Évalue ta comme neuve au comme-neuve.com.
Construction Paradis Leclerc recrute. Tu es charpentier menuisier, apprenti ou compagnon et tu cherches du changement? On t'offre des projets variés en résidentiel et commercial, de la charpente à la finition et au revêtement. On cherche des gens fiables, efficaces et fiers de leur travail pour joindre une équipe solide avec une excellente ambiance. Temps plein, 40 heures, CCQ résidentiel et commercial avec possibilité d'avancement. On recherche aussi un technicien ou une technicienne comptable pour nos entreprises liées à la construction. Postulez dès maintenant. Construction Paradis Leclerc. Viens bâtir avec une équipe qui a de l'ambition.
Retour des promos printemps au Club Avantage Multisport. Gym, workout, spinning, tennis, pickleball, badminton, yoga. 3 mois, tous les services pour 145 $. Garderie et semaine d'essai gratuite. Visitez-nous à clubavantage.ca.
Vous avez déjà un Volkswagen dans votre cour? Votre fidélité vaut de l'argent. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, profitez de 1 % de rabais sur votre prochain modèle en location. Nouveau look, plus de techno et des paiements réduits. Passez-nous voir dès aujourd'hui. Volkswagen Saint-Nicolas, votre prochain Volkswagen vous attend.
Le 28 avril, c'est le jour de deuil. Une journée internationale consacrée à la mémoire des personnes blessées ou décédées à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Au Québec, on compte chaque année plus de 100 000 victimes de lésions professionnelles et plus de 200 décès. C'est beaucoup trop. En collaborant à la démarche de prévention mise en place par l'employeur, nous contribuons à rendre nos milieux de travail plus sains et sécuritaires. Le 28 avril et toute l'année, priorisons la prévention. Un message de la CNESST.
Vos compagnies québécoises chouchou sortent du web l'instant d'un week-end au marché du printemps des Galeries de la Capitale. Rendez-vous dans la cour centrale du 16 au 19 avril pour faire le plein de trouvailles locales. Découvrez la programmation complète du marché du printemps au galerielacapitale.com.
Voici le portrait. Tu veux t'acheter une voiture, t'en veux pas de neuve et tu veux faire ça simple. Ça l'est avec Kia Beauport. On a aussi de l'occasion. On fait partie du portrait. Rejoins la famille. Magazine au kiabeauport.com.
Le printemps, c'est le moment parfait pour améliorer votre confort. Jusqu'au 30 avril, profitez de jusqu'à 1000 $ de rabais chez Enviro-Confort. Ajoutez à ça les remises manufacturières et les subventions disponibles. Thermopompe, chauffage, climatisation. Économisez maintenant. Soyez prêts pour l'été avec Enviro-Confort.
À vous qui roulez sur des nids de poule, on réaligne votre véhicule en un rien de temps. À vous qui freinez à la dernière minute, on change vos freins pile quand il faut. Parce que vous savez qu'on est toujours là quand vous en avez besoin. Chez Pneus Ratés, on n'est jamais bien loin. Maîtrisez la route avec Goodyear. Jusqu'au 30 juin, obtenez jusqu'à 80 $ en carte prépayée Goodyear Mastercard à l'achat de 4 pneus neufs Goodyear sélectionnés. Disponible en succursale et en ligne. Depuis 92 ans, peu importe vos besoins, chez Pneus Ratés, on s'entend bien.
Du 15 au 28 avril, épargnez 20 % sur les peintures Aura et Régal Select d'intérieur chez votre détaillant Benjamin Moore indépendant. Chaque achat soutient une entreprise locale. Détails en magasin.
Saviez-vous que le Mitsubishi Outlander PHEV est l'hybride rechargeable le plus vendu au pays? En 2026, l'Outlander PHEV domine la compétition grâce à la plus grosse batterie de sa catégorie, offrant plus d'autonomie électrique pour vos déplacements et une puissance accrue. C'est le seul à vous offrir 7 places de série, la recharge rapide et la meilleure garantie de 10 ans ou 160 000 km. Profitez des subventions gouvernementales et de nos unités disponibles immédiatement. L'avenir est branché. Passez chez Sainte-Foy Mitsubishi ou Québec Mitsubishi.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. Il est spécialisé en droit, dossier de SAAC, DIVAC, de CNESST. C'est bellemareavocat.ca. Puis parlant de CNESST, gros dossier sur le site de Radio-Canada, sous la plume de Sophie Bernier. On parle des caissières qui doivent travailler debout malgré la douleur. Les caissières, on y pense peut-être très peu, mais exemple, prenons une caissière du IGA ou du métro ou d'une épicerie. Maître Bellemare, rester 8 heures debout, ça doit être épuisant comme pas possible.
Oui, absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. La question qui se pose, c'est de savoir, admettons que tu développes des problèmes physiques aux hanches, aux genoux, aux pieds, du fait que tu restes debout longtemps. Est-ce que tu as le droit d'être indemnisé? J'ai représenté l'année passée une personne qui travaillait dans un hôpital et à l'occasion de la COVID, là, il y avait eu des mises à pied, donc il y avait une réduction de personnel. Puis la personne était passée de 5 000 pas par jour à 20 000 pas par jour parce qu'elle avait eu la bonne idée de tenir traîner son cellulaire avec elle et d'enregistrer le nombre de pas. Elle a développé ce qu'on appelle une fasciite plantaire. Fasciite plantaire, c'est le fascia, là, c'est un une espèce de cartilage qui est dans le, sous le pied et qui peut devenir douloureux à un moment donné à force de marcher, qui peut devenir inflammé. Et elle a été acceptée par la CNESST et l'employeur, je pense que c'était le CHUL à Québec, le Centre hospitalier de l'Université Laval, avait contesté ça en disant que non, 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 ça ne pouvait pas être la marche prolongée qui avait causé la fasciite plantaire. Et le tribunal administratif du Québec a maintenu la décision en disant que oui, le fait de marcher de façon prolongée pouvait causer ce type de blessure-là. Ça arrive, il y en a des cas comme ça, mais le simple fait de dire « après ma journée de travail, j'ai des crampes, j'ai de la fatigue, puis je suis obligé de m'allonger ou de m'asseoir », il faut qu'il y ait un diagnostic. Un diagnostic, c'est un médecin qui va dire « bien là, tu as une bursite de la hanche ou tu as une inflammation d'un genou ou tu as un ménisque qui est déranché ou tu as un problème de cheville, là, de tendinite au niveau de la cheville ». Ça prend un diagnostic. Puis à ce moment-là, le délai de 6 mois prévu à la loi québécoise sur les accidents du travail fait en sorte que tu, si est respecté, mais tu peux obtenir des indemnités de la CNESST. Mais c'est pas la fatigue, c'est pas un diagnostic, Yannick. La fatigue et l'écœurement, c'est pas un diagnostic non plus, ça prend une blessure. Alors, faut malheureusement attendre qu'il y ait une blessure qui soit véritablement diagnostiquée pour pouvoir obtenir des prestations de la CNSST.
Mais dans ce cas-ci, M. Bellemare, dans l'article que j'ai consulté ce matin sur le site de Radio-Canada, on dit que depuis 2001, il existe un règlement au Québec qui stipule que des employés qui travaillent debout doivent pouvoir s'asseoir si le contexte le permet. Pourtant, les caissières et le syndicat affirment se buter à une incroyable difficulté à faire évoluer les pratiques. Ce qu'on nous dit du côté du syndicat, c'est que ça n'a pas évolué depuis un iota. Ailleurs dans le monde, les caissières ont le droit aux chaises ergonomiques, mais au Québec, dans les épiceries, semblerait que l'employeur ne veut absolument à rien savoir de procurer à leurs caissières, caissiers des chaises ergonomiques. On dit qu'en 2024, il y a un sondage léger qui est sorti. Et dans ce sondage-là, ça révélait que 86 % des répondants croyaient que les caissières devraient avoir la possibilité de choisir entre s'appuyer ou encore rester debout au travail. Donc, ce que je comprends, c'est que les gens, ça leur importe peu ce qu'ils veulent, c'est que la caissière continue à faire son travail, qu'elle soit debout ou assise, là. Ça changerait rien concrètement. Pourquoi les employeurs n'embarquent pas là-dedans à fournir des chaises ergonomiques?
Bien, c'est une question de coût. Je pense que les employeurs, que ce soit pour les mesures préventives ou les mesures curatives, quand il y a des réclamations à CNSST, ils contestent tout ça en disant « ben non, ça se peut pas que ce soit la station debout prolongée qui a causé telle ou telle blessure ou tel accident. Madame, c'est parce qu'elle est vieille qu'elle a mal, c'est pas parce qu'elle a eu un problème au travail. » Alors, les employeurs investissent énormément de sous dans des contestations de toutes sortes au niveau de la CNSST quand une blessure est acceptée comme étant en relation avec le travail. Des mesures de prévention, ils n'en font pas. Puis quand c'est le temps de regarder le milieu de travail, bien, il y a toujours un contremaître qui va venir dire « Ah, non, 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 ils ont le droit de s'asseoir quand ils veulent, puis c'est pas vrai qu'on impose autant d'heures debout, puis il y a des chaises, puis il y a des breaks, puis c'est pour ça finalement que ça avance pas beaucoup, parce que d'un employeur à l'autre, ça peut varier considérablement. » Alors ça, c'est la différence entre les beaux principes de santé-sécurité, et puis on a au Québec un institut qui s'appelle l'Institut de recherche en santé-sécurité du travail, IRSST, qui est garni de nombreux chercheurs qui font des études puis qui regardent un petit peu ce que nous disent les enquêtes internationales dans ce domaine-là. Et mais il n'y a pas de changement parce que, comme je te dis, c'est très difficile d'être capable, dans des cas précis, d'appliquer ces mesures-là et d'imposer aux employeurs des amendes ou des obligations au niveau des conditions de travail. Puis quand le mal survient, puis que là, il y a une réclamation qui est faite, bien, là, ils ont beaucoup d'argent, tout à coup, les employeurs, pour contester les réclamations. En tout cas, c'est mon expérience.
Ouais. Je vous pose une question comme ça. Supposons que j'ai été commis d'entrepôt toute ma vie, puis que j'ai dû... Je travaille chez Canac, je suis dans l'entrepôt en arrière, puis j'ai dû toute ma vie, pendant toute ma carrière, pendant 20 ans, pendant 30 ans, lever des poids extrêmement lourds. Puis là, ben à 65 ans, ma retraite est prise. Puis là, je commence à éprouver des maux de dos. Est-ce que je suis capable de revenir à la CNSST pour dire ben la raison pour laquelle j'ai mal au dos là, c'est ma job de que j'ai faite pendant des décennies qui ont usé mon dos de cette façon-là?
Oui, ça peut être sur 25-30 ans d'évolution. que tu as eu un problème de dos ou que tu as eu un problème d'épaule, qu'un bricteur, par exemple, qui travaille depuis 30 ans, ouais. a toujours les bras en élévation, il va éprouver des tendinites au niveau des épaules, c'est bien connu, il y a des études qui le démontrent. Maintenant, quand le médecin te dit, bien là, tu as un problème de bursite au niveau des épaules ou tu as un problème d'entorse au niveau du dos parce que tu as forcé depuis 30 ans, à ce jour-là, tu as 6 mois pour réclamer. Et souvent, les travailleurs laissent passer le délai. Ils vont aller en physio un petit peu. Ils ne veulent pas perdre leur job. Ils ne veulent pas déplaire au patron. Ils ne veulent pas se faire dire qu'ils sont momounes. Alors, ils laissent passer le délai parce que 6 mois, c'est très court. Et on a beaucoup de cas de maladies professionnelles où le délai fait défaut. La CNSST commence à regarder ça. Ils regardent le premier diagnostic du médecin, le moment où la réclamation est produite. Puis, il y a au moins 50 % des dossiers de maladies professionnelles qui sont refusés strictement sur la question du délai. Alors, il faut aller au tribunal pour se faire relever du problème de délai avant d'analyser la question de fond. Et souvent, on procède avec des expertises en ergothérapie parce que je travaille fort, là, c'est pas une preuve, ça. Alors, il faut être capable de documenter le nombre de poids, les poids en question, les postures irrégulières, la répétition, les pressions sur le dos, pour être capable de faire la preuve que c'est ce travail-là, au fil du temps, qui a causé les maux de dos de la personne. Ça se fait, mais disons que c'est un peu plus difficile que de dire simplement, j'ai glissé en sortant du frigidaire puis je me suis fait mal dans le dos. Ça prend 10 secondes d'expliquer ça.
Maître Bellemare,
c'est une maladie professionnelle, c'est plus long.
Maître Bellemare, je sais que vous avez une grosse soirée, donc je dois vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon match du Canadien demain. Merci d'avoir été là. Pour des gens qui ont des dossiers à vous soumettre de SAAC, DIVAC, de CNESST, entre autres, on vient de parler de ça, c'est bellemareavocat.ca. Merci beaucoup!
Ça fait plaisir. Bonne semaine, tout le monde.
Passez de belles soirées, puis on se reparle demain. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Si t'écoutes la radio, puis que tu viennes te dire
« Encore une pub! »
C'est un signe que t'as faim. Va chez Valentine.
Voici le portrait. Tu veux t'acheter une voiture, t'en veux pas de neuve, et tu veux faire ça simple. Ça l'est avec Kia Beauport. On a aussi de l'occasion. On fait partie du portrait. Rejoins la famille. Magazine au kiabeauport.com.
Clôture Nordique Orléans, la référence en installation de clôture de verre composite, acier ou aluminium. Service clé en main avec plus de 30 ans d'expertise. Profitez de nos promotions en visitant notre salle de montre. Soumission gratuite. NordiqueOrléans.com.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
La toute nouvelle Crosstrek 2026 est enfin en stock chez Lévis Subaru. Le VUS le plus populaire et le plus abordable pour toutes vos aventures. Polyvalente, fiable et prête à vous suivre partout. Pour votre prochain Subaru, une seule destination s'impose. LévisSubaru.com.
Jusqu'au 30 mai, économisez gros chez Pièces d'auto économiques. Profitez de 15 % de rabais sur les disques de frein de première qualité BrakeMax et jusqu'à 20 % sur les essuie-glaces Rain-X. Pièces d'auto économiques, c'est 8 magasins et un site transactionnel au pièceséconomique.com.
Connaissez-vous le marché terre et mer d'alimentation première à Sainte-Foy? Découvrez-y plus de 260 protéines locales de qualité supérieure. Viande et poissons sous vide et surgelés, nos experts vous attendent sur place pour vous conseiller. Rendez-vous au 2828 chemin des Quatre Bourgeois.
Vous avez déjà un Volkswagen dans votre cour? Parfait, parce que votre fidélité vaut de l'argent. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, profitez de 1 % de rabais sur tous nos modèles en location. Oui, 1 % de moins sur votre prochain Volkswagen. Offrez-vous un nouveau look, plus de technologie et encore plus de plaisir à conduire tout en payant moins chaque mois. C'est le moment idéal pour changer. Passez nous voir dès aujourd'hui et découvrez à quel point être fidèle, ça paye. Volkswagen Saint-Nicolas, votre prochain Volkswagen vous attend.
Le point de Max.
OK, oui, c'est Max. Chaque jour de semaine, 10h, on suit l'évolution des gros dossiers d'actualité du jour. On jase de sport, puis on a du fun. Viens faire un tour.
Le point de Max.
Sanivac est maintenant dans ta région, avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout, peu importe la météo. Chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
La vente étiquette rouge est de retour. Profitez du meilleur des deux mondes avec la Prius hybride branchable. Roulez jusqu'à 962 km avec une charge complète et un plein d'essence. Et profitez d'une autonomie électrique améliorée de 50 %. Ajoutez à ça une conduite dynamique propulsée par 220 chevaux. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 8 000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente étiquette rouge, visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Le printemps, c'est le moment parfait pour améliorer votre confort. Jusqu'au 30 avril, profitez de jusqu'à 1 000 $ de rabais chez Enviro-Confort. Ajoutez à ça les remises manufacturières et les subventions disponibles. Thermopompe, chauffage, climatisation. Économisez maintenant. Soyez prêts pour l'été avec Enviro-Confort.
Construction Paradis Leclerc recrute. Tu es charpentier-menuisier, apprenti ou compagnon et tu cherches du changement, on te